Lâchez-moi donc, mon ami,
lança-t-elle à sa suivante.
Sire Edan me donnera le bras.
Al-Maudi obéit à contre-cœur, mais se tint juste derrière sa maîtresse prête à la seconder. La duchesse voulut poursuivre la conversation devant la cheminée. Dès le premier pas, elle perdit l'équilibre et se rattrapa contre le flanc du sire de Vaumacel. Celui-ci la retint avec un respect de bon aloi, tandis que la suivante se précipitait pour la soutenir. L'incident n'inspira qu'un ricanement à la grande dame.
« Quelle scène nous offrons ! » railla-t-elle. « Me voici à demi-morte dans les bras de mon séducteur. »
Elle coupa sèchement Al-Maudi qui la suppliait sur un ton geignard de regagner son lit et se rétablit en prenant appui sur le chevalier. Ses articulations émirent de nouveaux craquements jusqu'à ce que, la narine pincée et le menton hautain, Odéarde de Maginois parut rattraper la taille du sire de Vaumacel. À pas mesurés, la dame et son chevalier servant gagnèrent les chairs qui étaient disposées devant l'âtre. La suivante se hâta de garnir de coussins le siège de sa maîtresse, afin que la duchesse y fût adossée de la façon la plus confortable. Même une fois assise dans ce nid molletonné, Odéarde conserva un maintien aussi raide que fragile.
« Grâce vous soit rendue, sire Edan, » remercia-t-elle en lui indiquant le siège en vis-à-vis. « Ce petit lever fut un plaisir, après lequel j'ai soupiré des jours durant. »
Tandis que le sire de Vaumacel prenait place, la duchesse poursuivit.
« Mais n'allez pas croire que je vous tiens quitte à si bon compte. Je réserve toujours ma décision. Laissons de côté un instant votre souhait de donner votre vie pour restaurer ma dignité. Je ne doute pas de votre courage, mais ces déclarations à l'emporte-pièce vous confortent plus qu'elles ne me consolent. Croyez-vous vraiment parvenir à renverser la situation par votre seul sacrifice ? Dans le fond, vous savez bien que c'est improbable. En défendant mon honneur au prix capital, c'est surtout au vôtre que vous songez. Cela arrangera-t-il quoi que ce soit à ma situation ? On vous admirera plus qu'on ne m'absoudra. Au moins, les propositions du comte de Kimar ont ceci d'intéressant que, pour être moins sublimes, elles sont plus substantielles.
Le comte Anguzel sera fort aise d'apprendre que vous prêtez une oreille si conciliante à sa requête,
observa Edan.
Mais monseigneur Méléagan vous a-t-il délivré l'intégralité du message? Le comte vous prie quand même de suspendre vos griefs et de faire cause commune avec votre mari.
En toute franchise, que pourrais-je faire d'autre? Poursuivre l'épreuve de force contre Ganelon, alors que le duché est envahi, me fera passer au mieux pour une félonne et ruinera le crédit que j'ai encore dans la noblesse. Au pis, cela précipitera la défaite des armes ducales et, pour avoir eu la satisfaction de faire chuter mon traître d'époux, je jetterai mon douair au feu et je priverai mes enfants de leur héritage. Je me trouve bien forcé de composer, du moins pour un temps. Mais je ne consentirai point à une concession de cette taille sans contrepartie. Or, c'est là que vous pouvez m'être utile.
Envisagez-vous de faire de moi l'un des enjeux des pourparlers avec votre mari?
Certainement pas. Ce serait vous accorder trop de prix. Vous passeriez plus que jamais pour ma créature ou mon amant. Et je ne veux plus prêter le flanc aux calomnies. Je ne négocierai donc rien à votre propos, que ce soit pour vous sauver ou pour vous perdre. En revanche, j'ai bien entendu votre volonté de laver votre honneur devant la cour ducale. Eh bien, faites donc. Je vous laisse libre de vous jeter dans la gueule du loup, si cela vous chante. Mais avant de périr, je vous enjoins de porter mes conditions à Ganelon.
Je m'en ferai un devoir.
Mais la duchesse, loin d'apprécier le dévouement de cette réponse, se montra à nouveau distraite. Relevant les yeux vers les ombres du plafond, elle dressa un index maigre.
« Cette fois, vous ne me direz pas que vous n'entendez rien !»
se récria-t-elle. Hormis l'effritement d'une bûche dans un bouquet d'étincelles et l'hurlement lamentable d'un dernier chien au fond des cours, seuls les sifflements de la brise entre les murailles animaient encore le château nocturne. Comme ses interlocuteurs, embarrassés, ne savaient que dire, Odéarde de Maginois réagit avec humeur.
« C'est extravagant ! N'avez-vous donc aucune oreille ? »
s'étonna-t-elle.
« On donne un bal dans les étages. L'orchestre est des plus bruyants. Il joue une estampille. Ne percevez-vous pas le pied des danseurs qui bat la mesure ? Tenez, si je n'étais pas si dolente, il me prendrait presque l'envie de me joindre au cortège. »
Sans parvenir à masquer son trouble, Almody se rapprocha de sa maîtresse. « Vous êtes fatiguée, Votre Altesse, » murmura-t-elle. « Vous rêvez cette basse danse. Le frère Solacien vous a pourtant mis en garde. Il vous a dit que les personnes comme vous qui ont frôlé la mort perçoivent parfois des choses qui n'existent pas. C'est signe que vous avez outrepassé vos forces. Laissez-moi vous reconduire au lit. Le chevalier pourra recevoir vos instructions quand vous serez reposé. »
« Il n'en est pas question !»
répliqua la duchesse avec feu.
« En outre, je ne rêve pas. J'ai l'esprit si rempli de tracas que la danse est bien le dernier de mes soucis. Il y a une fête aux étages, vous dis-je. Mais c'est sans importance. Ce mystère sera sans doute élucidé demain. Pour l'heure, revenons-en à mes conditions. »
Elle se tourna derechef vers le chevalier avec autorité, mais une faiblesse des cervicales lui donna un air légèrement penché qui la fit paraître tout à la fois plus vindicative et plus fragile.
« Vous direz à Ganelon que je n'ai jamais perdu de vue le bien du duché. C'est la raison pour laquelle je suis innocente des crimes que l'on nous a imputés à vous et moi. Et c'est aussi la raison pour laquelle je suis prête à apporter mon concours à la reconquête de nos terres. Cependant, je ne puis appuyer l'ost ducal sans un certain nombre de garanties. Vous préciserez qu'elles ne sont point négociables. Si l'une d'elles n'était point remplie, je m'estimerais toujours trop offensé pour faire le moindre geste de bonne volonté. »
Son attention flotta un instant tandis que son regard s'élevait vers le plafond à caissons. Sous la robe, une de ses jambes bougea, battit brièvement la mesure, avant que la duchesse ne se reprît.
« Je veux être libre de mes mouvements dans l'apanage de mon fils aîné, dans les fiefs de ma parenté et sur mes propres terres, »
poursuivit-elle.
« J'exige en outre un sauf-conduit pour voyager sans encombre entre ces différentes places. Mon douaire me sera restitué dans son intégralité et mon hôtel reconstitué. Les servants qui me sont restés fidèles seront restaurés dans leurs droits et privilèges. Vous insisterez bien sur un point. Ces décisions relèveront du bon plaisir du duc et non d'une quelconque mesure de grâce. Je réfute toute culpabilité, je ne reconnais pas la cour qui m'a jugé. En conséquence, je ne puis être qu'innocenté, et je refuserai toute faveur présentée comme un geste de clémence.
Ce sera pour moi un honneur de signifier vos exigences au duc.
Un honneur qui ne lui inspirera guère d'indulgence à votre égard,
releva la duchesse sur un ton léger.
Demeurez-vous toujours mon homme en cette affaire?
Plus que jamais, madame. Dans un sens, quelle meilleure façon de plaider mon innocence que de vous représenter?
Je crains que Ganelon n'interprète différemment votre démarche. Mais puisque vous voulez faire démonstration de courage, je ne vous priverai pas de cette occasion de vous illustrer. D'autant que je n'en ai pas fini avec mes conditions. Voici la dernière et la plus importante. Qu'elle ne soit point satisfaite, même si l'on me cède sur tout le reste. Et je pousserai le seigneur de Vert à poursuivre la guerre contre son père. Je veux que vous soyez parfaitement clair à ce sujet.
Je n'y manquerai pas. Que devrais-je réclamer en votre nom?
Mon très cher fils Blancandin, je veux le voir et l'embrasser au plus tôt.
Le sire de Vaumacel hocha la tête.
Comme c'est légitime, madame, dit-il, et comme monseigneur Blancandin est digne de vous. Pour le peu que j'ai pu le voir à Lindinas, c'est un bachelier dont la droiture et la bravoure suscitent déjà l'estime dans les deux camps.
Mon pauvre Andin, je n'aurais jamais dû m'en séparer à un âge si tendre. Et il ne m'en a même pas tenu rigueur. De la bravoure, dites-vous, chevalier? Mon cher enfant a bien plus de cœur que cela. Il s'illustre par une grandeur d'âme où brille déjà toute la vertu de ses aïeux. Si jeune encore, se dresser contre l'ordre du sacre, contre l'autorité paternelle et ducale. Regagner nos terres envers et contre tout, défier son père comme il l'a fait, jusque sur le champ de guerre, et agir seul ou peu s'en faut, pour jeter le voile sur l'assaut qui m'a rendu la liberté, tout cela, alors qu'il n'a pas 20 ans. Andin est de la même trempe que son frère. Il possède déjà le charisme qui fait les ducs. Je déchoirai si je laisse plus longtemps ce fils admirable au pouvoir de ses ennemis.
J'espère pouvoir le saluer à la cour ducale, pour lui répéter ce bel éloge. Mais jugez-vous vraiment envisageable que le duc vous rende votre fils? Il a tout intérêt à le garder dans son entourage, afin de conserver prise sur vous. Et, à tout prendre, monseigneur Blancandin, d'une certaine façon, ne serait-il pas plus utile en continuant à plaider votre cause auprès de votre époux?
La duchesse ébaucha gauchement un geste de déni.
Mon Andin est pétri de qualité, répliqua-t-elle, et malheureusement cela le rend vulnérable à la rouerie de son père. Il sera en danger tant qu'il restera en son pouvoir.
Pourtant j'ai appris qu'il avait porté secours au duc, tombé de cheval au cours de la déroute du pont d'Aberbechan. Ce beau geste ne peut qu'avoir adouci les rigueurs paternelles.
Voilà bien l'un des dangers, et non des moindres. Ganelon va lui jouer la comédie du pardon et de la tendresse paternelle pour mieux le retenir dans ses raies. Il va faire flèche de tout bois. La détresse du duché, un bâton de commandement, voire une promesse de miséricorde pour Méléagan et pour moi, à seule fin de se l'attacher. En fait, ce vieux fourbe va chercher à diviser mes fils pour me renier les griffes. Puis, une fois que nous serons désarmés, pour mieux spolier mes enfants de leurs droits. Il faut lui soustraire Blancandin au plus vite. Aussi, rapportez bien que je me montrerai intraitable. Si mon fils ne m'est pas rendu, les troupes de Vert continueront à menacer Carwell.
Il sera fait selon vos volontés, madame. Désirez-vous que je produise une lettre qui fixera vos conditions?
Non. Rien d'écrit, rien que le chancelier puisse serrer dans ses archives pour en faire mauvais usage un jour ou l'autre. Vous rapporterez oralement mes exigences.
Et si on ne me laisse pas approcher du duc, ou si un nouveau guet-apens m'empêchait de délivrer le message? Dans la tourmente qui ébranle le duché, ce contretemps pourrait avoir de fâcheuses conséquences.
En d'autres circonstances, je vous aurais adjoint un second émissaire, plus proche du parti ennemi. Le miste Scolonagre, qui espionnait pour le compte du chancelier, eut parfaitement rempli cet office. Malheureusement, il est mort. Sur ce coup, mon cher Méléagant a eu la main un peu lourde. L'impétuosité de la jeunesse, que voulez-vous ? On ne peut lui reprocher le tempérament qui lui a donné l'audace de me délivrer. Cependant, je ne risquerai pas la vie d'autres serviteurs zélés pour l'ouverture de ces pourparlers. Vous souhaitez qu'on vous pardonne ? Eh bien, parvenez au moins à délivrer mes exigences à Ganelon, quel qu'en soit le prix. Êtes-vous toujours résolu dans votre intention ?
Plus que jamais, madame.
Voici un discours plus ferme que vos engagements passés.
Je n'ai jamais varié dans mes engagements, madame. J'ai juste dû les concilier. Mais sur mon honneur, je vous jure que je me ferai l'interprète de vos volontés auprès du duc.
Je vous ai entendu, chevalier. L'opinion que je me fais de vous, comme le sort du duché, repose désormais entre vos mains.
C'est une immense faveur que vous me faites, madame.
Une faveur ? N'allons pas trop vite en besogne, je vous prie.
La duchesse s'interrompit un instant, et ses prunelles roulèrent avec agacement dans ses yeux un peu caves.
« Ah, cette musique ! Cette musique !»
marmonna-t-elle. Mais son attention se reporta très vite sur le sire de Vaumacelle.
« Quand vous mettrez-vous en route, chevalier ?»«
Dès que vous m'accorderez congé. »«
Alors, le plus tôt sera le mieux. » Vous partirez au matin.
Sitôt que j'aurai salué le seigneur et la dame de Vert, dois-je prendre la route de Carwell? Je ne sais pas au juste où trouver le duc. D'après le seigneur Lanval, il a été blessé à Aberbeshan, encore que ses jours ne soient pas menacés. Carwell et son château sont désormais la place la plus exposée aux troupes de votre fils, comme aux assauts aux romans. Il me semble donc probable qu'il s'y soit retranché. Mais il est possible aussi qu'il se soit enfermé à Chaer-le-Duc, voire qu'il ait gagné Longomort, s'il compte sur des renforts venus des îles Maroises ou de Tchoudalia. Je crains de perdre du temps s'il me faut le chercher à travers un pays en guerre.
Parlez-en demain avec mon fils. Il vous recommandera sans doute de suivre l'Andoun jusqu'à la seigneurie du Trèfle. La route sera à peu près sûre puisque nous la contrôlons. Au-delà, je vous recommanderai de gagner Carwell. Même si Ganelon ne s'y est pas enfermé, vous serez assuré d'y trouver mon frère, le baron de Maginois. Sa toute récente connétablie le contraint de faire front à l'ennemi.
La grande dame eut un rictus de dédain.
Est-ce chivard, connétable ?
lâcha-t-elle en fronçant le nez.
Décidément, tout lui réussit. Mon mariage comme ma répudiation. La défaite de nos armes comme la mort de son fils.
Sa voix s'altéra sur ces derniers mots.
Pauvre Dilsin,
ajouta-t-elle avec amertume.
Il avait été un enfant si beau et si affectueux. Il était devenu un jeune chevalier si élégant. Je l'ai beaucoup gâté quand il était page à la cour, et je le considérais presque comme un fils. Il n'a pas su prendre parti entre un père côteleux et une tante en disgrâce. Me fût-il resté loyal, il n'aurait pas combattu dans l'ost ducal et serait toujours en vie aujourd'hui.
Votre frère doit être terriblement affecté.
Cela va de soi. Il a perdu son héritier, mais ce n'est point le chagrin qui l'incitera à me prêter une oreille favorable. Eschivar appuiera mes demandes par nécessité, pour soulager l'armée du duc sur un front. Non par remords. Je suis persuadé que pour apaiser sa mauvaise conscience, il me fera secrètement porter la responsabilité de la défaite d'Aberbechan, au prétexte que ma querelle aura affaibli Brommel. Il est désormais mon ennemi, même lorsque nous ferons cause commune. Un ennemi fraternel qui me jalouse mes beaux fils courageux et vivants. S'il vous fait aimable visage, ce ne sera qu'un masque. Malgré tout, réclamez son concours pour fléchir le duc. Mon frère est sagace. Il comprendra que dans l'extrémité qui est la nôtre, il n'existe pas de meilleure partie.
Dans ce cas, je gagnerai Carwell, et je présenterai vos condoléances, ainsi que les miennes, au connétable de Maginois. Ai-je votre autorisation de lui délivrer votre message, ou faut-il le réserver aux seules oreilles du duc?
Donnez les grandes lignes à Eschivar, mais pas le détail. Mon frère ne vous introduira en présence de Ganelon que s'il ne connaît pas tout de mes exigences.
Votre conseil est judicieux, madame. Grâce à la confiance dont vous m'honorez, les chances seront accrues de plaider directement en présence de son Altesse ducale.
Vous ne devriez pas vous en réjouir. On se brûle à trop approcher du soleil.
Je ne le sais que trop, madame. J'en ai fait l'expérience. Avec vous.
Un sourire froid parcourut les lèvres de la duchesse.
Voilà des propos fort osés, chevalier,
rabroua-t-elle.
On pourrait mal les interpréter.
D'un geste dolent, elle fit mine d'écarter l'hommage.
Hélas, cette blessure m'a fait vieillir de 20 ans. Me voici l'ombre de celle que j'ai été. Je ne suis pas assez sotte pour croire aux compliments qu'on pourrait encore m'adresser. Je n'y entendrai que basse flatterie.
Si l'on vous flatte, dame, c'est que vous êtes toujours puissante.
Ne m'a-t-on jamais flatté que pour mon pouvoir ? Ce serait fort triste. Mais tout cela n'a plus grand intérêt. Ce qui importe désormais, c'est de sauver le duché et les droits légitimes de mes fils.
La dame poussa un soupir caverneux, tandis que sa tête émaciée branlait un peu.
Je crois que nous nous sommes dit l'essentiel, chevalier, reprit-elle Je suis lasse. Je vais me reposer. Je compte sur vous pour mener à bien la mission que je vous ai confiée. Si vous vous en acquittez, je réviserai peut-être l'opinion que j'ai de vous. Avant que je vous donne congé, pourriez-vous me donner le bras pour m'aider à regagner mon lit? Je ne suis pas certaine d'en avoir la force seule.
Le chevalier s'exécuta aussitôt. Almody s'empressa également de le seconder, mais la duchesse la repoussa d'un geste.
« Sir Adam est assez fort pour soutenir le peu qui reste de ma personne, »
s'irrita-t-elle. Comme elle semblait avoir du mal à se lever, le sire de Vaumacel la saisit par la taille pour la redresser. La duchesse s'appuya un instant sur sa poitrine, les lèvres entr'ouvertes, sur un souffle qui sifflait entre ses incisives. Puis, prenant plus d'assurance, elle s'accrocha au bras gauche du chevalier et ils quittèrent le coin du feu. Au bout de trois pas, Odéarde s'arrêta toutefois et fit comprendre qu'elle avait besoin d'une pause. D'un coup d'œil comminatoire, elle fit reculer sa suivante, qui s'était à nouveau précipitée.
« Prenons notre temps, » murmura-t-elle. « Après tout, c'est ma première promenade de convalescente. »
Après un instant, ils repartirent, mais n'allèrent pas beaucoup plus loin. Au bout de quelques pas, la grande dame imposa une nouvelle station. Sa respiration chuintait comme un soufflet percé.
« J'espère, chevalier, que vous ne mésinterprétez point cette marque de familiarité, »
dit Odéarde entre deux inspirations sifflantes. « Je remplis les devoirs qui vous sont dus, madame. »
« Comme c'est poli de votre part. Jadis, cependant, vous étiez plus galant en parole. »
Nous n'en avions pas encore payé le prix.
C'est juste, j'avais tant de soupirants à l'époque qu'il était normal de voir les hommes à mes pieds. Pour être franche avec vous, il arrivait que ce fût embarrassant. Tenez, ce pauvre Sir Fitzurse. Parfois, je ne savais plus où me mettre.
Il vous a magnifiquement défendu au tournoi de l'Immortel. Sans lui, le camp du dehors l'aurait peut-être emporté avant que le duc ne rompe la partie.
Oui, il a toutes les qualités d'un preux, mais il manque vraiment de discrétion.
Quelques pas de plus les amenèrent dans l'ombre monumentale du lit seigneurial. Cependant, Odéarde suspendit à nouveau la marche avant qu'il ne l'eût atteint.
« Vous aussi, Sir Edan, vous avez vraiment manqué de discrétion, »
reprocha alors la duchesse.
« Je n'ai rien fait qui sortît de la mesure. »«
Vraiment ? Et vos prouesses à Gaudemas ? Vous m'avez fort compromise. »
« Qu'attendiez-vous d'un champion qui portait vos couleurs ? Qu'il fût défait sans gloire ? »
Et pourtant, tout le mal est précisément venu de cette gloire. M'auriez-vous fait simplement la cour dans une chambre ou dans un jardin ? Qui nous aurait accusé d'une liaison ? Mais le retentissement de vos faits d'armes à ce tournoi vous a promu mon amant plus sûrement que tous les bruits d'alcôve. Est-ce qu'au moins vous m'aimiez un peu?
Je vous ai donné ma foi.
Oui, parmi tant d'autres. Pour ce que vous en avez fait ensuite.
Un dernier pas si languissant qu'il paraissait accompli à regret amena enfin le couple dans la ruelle du lit. Almody se tint prête à aider sa maîtresse à se coucher, mais la duchesse ne se montrait pas disposée à s'allonger.
« Allons, là où nous en sommes, parlez à cœur ouvert, Edan, »
intima-t-elle.
« Dans toute cette affaire, n'avez-vous agi que par vanité ? Ou avez-vous nourri de réels sentiments pour moi ?»
La question est sans ménagement, dame. Elle sous-entend que j'aurais pu vous mentir.
C'est donc bien votre amour-propre qui parle.
Quand vous m'avez interpellé au cours du banquet de Gaudemas, je le confesse, ce fut d'abord le cas. Mais ensuite, comment aurais-je pu rester insensible à l'attention dont vous me gratifiez?
Vous êtes pris au jeu, en quelque sorte.
Seulement en partie, madame. La vérité, c'est que nous sommes pris au jeu, vous et moi. Les premières courtoisies que nous avons échangées étaient de celles que s'adressent deux ennemis bien élevés. Et puis, sans que je me l'explique très bien, il s'est opéré un bouleversement dans mon âme. Et voici que je n'ai eu rien de plus cher que mon ennemi.
Mais qui avait ainsi bouleversé votre cœur, chevalier? Était-ce la duchesse ou la femme? Aurais-je été d'une autre condition? Aurais-je été, par exemple, à la place de ma dévouée Almody? Vous aurais-je touché de la même façon?
La femme que vous êtes ne saurait briller qu'aux premières places, dame. Et c'est cela qui fait votre puissance sur les cœurs et les esprits.
À présent que l'on m'a chassé du haut siège, ai-je moins de prix à vos yeux?
On vous a calomnié et emprisonné n'a pas suffi à vous abaisser, dame. Vous êtes toujours aux premières places, jusque dans l'esprit de votre époux. Depuis qu'il s'est privé de votre alliance, son pouvoir chancelle.
Comme c'est courtois de chercher ainsi à me consoler. Mais à vrai dire, vous m'ennuyez, chevalier, à parler comme un courtisan.
La duchesse haussa imperceptiblement ses maigres épaules.
À Gaudemas, jadis, vous vous teniez fier et rebelle. Je crois que je vous préférais ainsi. Il me semblait que vous m'aviez comprise. Dans la pluie de flatteries dont j'étais l'objet, vous aviez deviné que la plus sûre façon de me plaire était de me déplaire.
Un sourire mordant donna du tranchant à sa lassitude.
Et pour ce qui est de me déplaire, vous vous êtes ensuite surpassé.
Mais tout en formulant ce reproche, elle tapota du bout des doigts la main du sire de Vaumacel, dans un geste où se mariaient la réprimande et l'indulgence.
« Dites-moi, chevalier, avec le recul que nous avons acquis, regrettez-vous de ne m'avoir pas demandé davantage à l'époque ?»«
Ce que je regrette, c'est de n'avoir pas été en mesure de vous secourir plus tôt. »
Au moins nous avons ce sentiment en commun. Mais je vous parlais de toute autre chose. Auriez-vous su que vos prouesses me vaudraient la déchéance? Auriez-vous osé me réclamer plus que quelques mots en particulier?
N'avais-je pas l'essentiel, si pareille rêverie vous occupe encore?
Certainement pas, chevalier. Cela m'étonne que vous confondiez la proie et l'ombre. »
La duchesse se tourna complètement face au sire de Vaumacel. Derrière elle s'ouvrait la bouche d'ombre luxueuse du lit seigneurial.
« N'allez pas croire que j'aurais cédé à vos instances, » dit-elle. « Mais s'il est des circonstances où il est déplacé de se montrer importun, il en est d'autres où il devient importun de ne pas l'être. Je me suis longtemps demandé ce qui m'avait valu vos manières irréprochables. Étiez-vous bienséant par respect ou par froideur ?»«
Pour l'amour de vous, dame, je faisais passer votre honneur avant le désir que j'avais de votre personne. »
La réponse souleva un rire asthmatique dans la maigre poitrine d'Odéarde.
« Vous êtes incorrigible, chevalier. C'est à croire que vous avez un blason à la place du cœur. Mais je vous remercie pour ces belles sentences. Elles me confirment dans l'opinion que j'avais de vous. Votre cour était un spectacle que vous vous donniez surtout à vous-même. » De cela aussi, il va falloir que je me venge.
Vous êtes sans pitié, dame. C'est d'ailleurs l'un des traits qui vous rend irrésistible.
Irrésistible? Vraiment? Dans l'état où je suis tombé? Vous vous moquez, Edan? Mais soit, puisque vous amenez le sujet, approfondissons-le, je vous prie.
Élevant faiblement une main, elle réduisit son vis-à-vis au silence.
« Non, non, coupons court aux compliments et aux éloges que l'on m'a mille fois servis. Allons droit au but. Vous avez raison, je suis sans pitié. Et je veux réparation de tous les préjudices que j'ai subis par votre faute. À la mission dont vous vous êtes chargé auprès de Ganelon, je vais donc ajouter une épreuve. Ne vous méprenez point sur sa nature, elle est tout autre que ce qu'elle peut paraître. Je veux conclure ce qui doit l'être, et en particulier vous achever. Accomplissez donc cette nuit ce que jadis vous avez négligé de faire. Embrassez-moi. »
Almody porta les deux mains à sa bouche en écarquillant les yeux. « Votre Altesse !» se récria-t-elle. Le chevalier afficha lui aussi un air des plus surpris.
« Vous embrassez, madame, vraiment ?»«
Eh quoi, chevalier ? Feriez-vous le difficile devant cette vieille femme qui ne se survit que parce qu'on l'a gorgée de thériaque et d'électuaire ?
Dame, votre blessure vous a affaiblie. Elle ne vous a pas vieilli, et encore moins on l'a dit. Votre beauté mérite toujours tous les hommages du monde.
Alors, accordez vos lèvres à vos paroles, chevalier. Embrassez-moi. Votre Altesse !»
s'effara Almody un ton plus haut.
« Est-ce vraiment là votre volonté ?»
s'étonna le sire de Vaumacel. « Et vos griefs contre moi ?»
Justement, chevalier, c'est la meilleure façon de m'en venger. »
Elle vacilla comme prise de faiblesse et se rattrapa contre le torse d'Edan. Une trouble méchanceté brasillait au fond de ses prunelles voilées.
« Ce que je vous offre, chevalier, n'a que l'apparence du déduit amoureux. En fait, je pousse votre vaillance dans ses derniers retranchements. Je vous fais descendre dans la lice privée de votre bouclier. Croyez-vous vraiment m'impressionner en prétendant affronter seul la cour du Cal? En quoi cela vous aurait-il distingué de tous ces preux qui se sont fait tuer pour l'honneur à Aberbéchan? Je connais bien les hommes de votre espèce, des guerriers si gonflés d'orgueil et si endurcis au cou que l'existence leur serait fade s'ils ne la risquaient sans cesse. Mettre votre tête dans la balance, n'est-ce point ce que vous vous apprêtez à faire? Et moi, qui suis-je sinon le prétexte pour goûter un transport lascif d'une autre sorte, la gloire de parader face au péril? Eh bien, embrassez-moi, Edan, et je vous donnerai un frisson encore inconnu de vous. Votre force vient moins de votre bras que de vos certitudes. Vous êtes prêt à défier sans trembler Ganelon, ses seigneurs et ses chevaliers, parce que vous vous sentez inébranlable dans votre bonne foi. Voilà qui est très chevaleresque et terriblement convenu. Mais si vous m'embrassez, cette nuit, où puiserez-vous désormais le courage de clamer votre innocence? Serez-vous prêt à faire le serment que nous avons toujours été chastes? Craindrez-vous le parjure? Quelle ressource insoupçonnée mobiliserez-vous pour combattre en champ clos quand le doute viendra vous prendre en tenaille avec le champion ennemi? La duchesse apposa doucement ses mains effilées sur les joues du sire de Vaumacel. « Telle est la prouesse que je vous demande d'accomplir pour moi, » murmura-t-elle. « Affrontez l'injustice qu'on nous a faite, débarrassée de votre armure de vertu. Je veux que ce soit l'homme à nu, et non le chevalier cuirassé, qui me défende au milieu de mes ennemis. Celle qui est déjà dans vos bras vous propose ce don inestimable, cette aventure du fier baiser, imaginée jadis par le malheureux devin de Belcastel. Embrassez-moi, Edan, et redoublez la difficulté de votre épreuve. Buvez votre perte sur mes lèvres. Donnez-moi la satisfaction, si je vous tue, de vous avoir désarmé, d'avoir enfin l'assurance que vous êtes mien. Votre Altesse, gémit Almodir en se couvrant le visage des mains, mais il était trop tard. Le chevalier de Vaumacel enlaçait Odéhard. Il froissait la robe fastueuse et la silhouette étroite en se penchant sur cette figure émaciée, dont le col plia un peu sous le baiser. Les doigts griffus de la duchesse plongèrent dans les boucles du chevalier et elle parut aspirer avidement à sa bouche, en gardant les yeux grands ouverts. La faible lueur de l'âtre baignait leurs corps unis de reflets ondulants, vipérins, comme les ombres qui rampaient sur les poutres moulurées. Au bout d'un instant interminable, l'étreinte du chevalier s'amollit et il vacilla, comme s'il se trouvait sur le point de choir dans les ténèbres du baldaquin. Ce fut la duchesse, avec une vigueur nouvelle, qui le maintint debout. « Non, non, beau doux ami, je ne vous en accorderai pas davantage, » railla-t-elle à mi-voix, sans vraiment se déprendre de lui. À peine avait-elle détaché ses lèvres que le sire de Vaumacel prit une grande inspiration comme s'il venait d'émerger d'une plongée en eau profonde. « Vous voyez qu'il eût été dommage de ne point cueillir ce prix-là, » dit Odéhard. « Pour moi aussi, du reste. Votre parfum à l'eau de rose, c'est très inattendu et tout à fait charmant. » Elle passa le bout d'une langue décolorée sur ses lèvres,
soudain redevenu carmin. En même temps, elle posait le bout des doigts sur la bouche de son cavalier. Non, rien de plus, lâcha-t-elle à regret. Si je vous dévore entièrement cette nuit, comment gagnerez-vous la cour ducale? Il fallut qu'elle rattrapât une seconde fois le chevalier qui chancelait à nouveau.
Mais danser, pourquoi pas?
Se réjouit-elle.
Finalement, je me sens mieux, beaucoup mieux. Que diriez-vous de quelques pas?
Élevant un index vers le plafond ténébreux, elle s'écria avec ravissement:
car désormais, j'en suis convaincue, vous entendez la musique,